Bonjour à tous et bon sabbat. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui et que j'examine le coronavirus et son impact sur chacun d'entre nous, je me souviens des paroles de Winston Churchill lorsqu'il a dit « Ce n'est pas la fin, ce n'est pas même le début de la fin, mais peut-être que c'est la fin du début. » La fin du début d'une nouvelle réalité, je peux ajouter. La réalité est que nous sommes peut-être confrontés à la plus grande calamité économique depuis la Grande Dépression il y a près de 100 ans. Aux États-Unis, un plan de relance économique de 2 billions, même 2 000 milliards de dollars, a été récemment mise en place, ce qui est sans précédent dans l'histoire américaine. Et depuis lors, plus de personnes ont perdu leurs emplois aux États-Unis qu'au cœur des 18 mois de la grande récession en 2008. Même 16 millions de personnes dans 3 semaines. En France, plus de 10 000 personnes sont mortes de COVID-19, et ce, avec des mesures extrêmes. Comment se faire une idée de tout cela, cette arrivée si vite? Il y a un mois, j'étais en Afrique pour donner un sermon, et j'avais en tête toute une série d'objectifs et des plans qui sont aujourd'hui toutes annulés. Et depuis ce jour, l'économie mondiale s'est effondrée. Et selon le New York Times, plus de la moitié de la population humaine, 4 milliards de personnes, sont sous une forme ou une autre de confinement. Soit 1 milliard de plus que ce qu'il avait sur la planète lors de la dernière catastrophe mondiale de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Mardi, une téléconférence entre les ministres de finances de la zone euro a duré 7 heures et s'est poursuivie jusqu'à mercredi. L'Italie, l'Espagne, la France et certains autres États de la zone euro veulent se partager la dette due au coronavirus sous la forme de Corona Bonds ou Euro Obligations, une dette mutualisée que tous les pays de l'Europe aident à rembourser. L'Allemagne, de l'autre côté, quant à elle, veut mettre en place un fonds de sauvetage européen et accorder des prêts en utilisant les mécanismes mis en place lors de la crise financière de 2008. Mais le premier ministre espagnol de l'Espagne a averti que si l'Union européenne ne parvenait pas à élaborer un plan ambitieux pour aider les États membres endettés par la lutte contre le coronavirus, le bloc pourrait s'effondrer. Imaginez cela. On parle maintenant d'effondrement de l'Union européenne en moins de 2 mois. L'Union européenne s'est retrouvée face à sa plus grande menace existentielle et les résultats n'est pas clair. On attend des nouvelles de déconfinement et on s'interroge que c'est l'été et l'automne. Nous nous demandons à quoi ressemblera le monde quand tout cela sera terminé. Nous nous interrogeons sur ce que cela signifie en termes d'événements prophétiques. S'il fut un temps où nous avions besoin de clarté de pensée pour savoir que nous allons nous en sortir, c'est maintenant que nous en avons besoin. Nous sommes à l'époque des pains sans levain et je crois que nous allons être testés pendant ces jours. Je voudrais dire que tous ceux qui m'écoutent maintenant vont s'en sortir. Peut-être les gens vont sortir dans les jours de pain sans levain, mais dans les mois et 2 mois et 3 mois dans l'avenir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si le passage existe dans 1 Pierre 5, verset 8, sur le lion rugissant, c'est que certains seront dévorés. Ce passage est un avertissement. C'est un avertissement que certains n'y arriveront pas spirituellement. C'est pourquoi la crise à venir va révéler en nous un problème spirituel sous-jacent qui n'est pas été traité et qui pourrait entraîner un peu ou une panique qui conduira à faire des choses qui sont contrariées aux lois de Dieu et à réitérer quelqu'un de la foi. J'ai vu des situations dans des parties du monde qui souffrent d'une grande pauvreté et des difficultés, où certaines personnes ont quitté l'Église de Dieu. Cela commence par le fait qu'on peut voler de l'argent pour aider la famille. Oui, ça commence. Oui, je peux voler l'argent pour aider ma famille. Puis, on peut mentir pour aider la famille. Puis, on peut voler et mentir pour s'aider soi-même, parce que je suis pauvre, ou je suis en grande détresse. Et ainsi de suite, à mesure que l'incertitude économique et les difficultés familiales personnelles pèsent sur les gens. Je ne veux pas effrayer les gens, je veux juste être réaliste. L'heure est venue de se concentrer et non de se distraire. L'examen de soi-même n'est pas un blâme envers les autres ou envers Dieu. Reconnaître que, quelle que soit la douleur que nous allons ressentir, quelque part, un frère ou une sœur en Christ faire face à une situation encore pire. Les prochains mois seront difficiles, mais si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Reportez-vous, s'il vous plaît, à Matthieu 24. Matthieu 24 et verset 9. Reportez-vous, s'il vous plaît, pour le premier passage biblique, à Matthieu 24 et verset 9. Et on peut lire quelque chose ici très important. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On associe généralement le cinquième sceau de livre de l'Apocalypse qui vient auprès de le quatrième cavalier de l'Apocalypse, le cheval verdâtre, à la grande tribulation. Nous voyons ici au verset 9 et encore au verset 21 et 22. Regardez, verset 21, Matthieu 24 et verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'au présent et qu'il n'y en aurait jamais. Le mot tourment au verset 9, où certaines versions disent tribulation, n'est pas un mot tourment ou tribulation, qui n'est pas un mot que nous utilisons souvent aujourd'hui. Mais la traduction française, Louis Sagan, utilise au verset 21 le terme détresse. Elle l'appelle la grande détresse dans le livre de l'Apocalypse. Je peux mieux comprendre ce terme détresse car dans notre vie moderne, nous utilisons beaucoup le terme stress qui s'y rapproche. La Newport Academy de Mental Health Resources, c'est un c'est une agence aux États-Unis, explique la différence entre la stress et la détresse. Il dit, et je cite, « Au fil du temps, l'accumulation des réactions quotidiennes au stress dans le corps et l'esprit peut éroder notre sentiment de bien-être et entraîner une déprime et un sentiment d'être toujours au bord du précipice. C'est alors que le stress se transforme en détresse. Et donc, la période à venir sera une période de grande accumulation de stress, telle qu'elle sera appelée une grande détresse. Et aujourd'hui, je voudrais parler du fait d'être en détresse et de recevoir de l'aide dans cette détresse. Nous allons examiner premièrement le cheval verdâtre de l'Apocalypse, comme nous avons examiné la réalité de cette crise de COVID-19 dans l'introduction. Et si Dieu le veut, nous pourrons intérioriser ce qu'elle signifie. Deuxièmement, nous examinerons ensuite ce que Job a dû ressentir à travers 39 chapitres de détresse en faisant face à sa situation personnelle. Enfin, nous examinerons la meilleure raison pour l'épreuve de Job et à ses implications pour nous, alors que nous faisons face à la détresse de certaines pandémies de coronavirus. Le titre du message d'aujourd'hui est « Embrasser la détresse ». Embrasser la détresse. Donc, commençons aujourd'hui par reporter à Apocalypse 6 et versets 7 à 8. Apocalypse 6, chapitre 6 et versets 7 à 8. Et examinez le cheval verdâtre de l'Apocalypse en lisant une prophétie qui a été interprétée et réinterprétée depuis plus de 2000 ans. La prophétie des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Donc, Apocalypse 6, à partir de verset 7. Quand il ouvre le quatrième sceau, je tendis le voix de quatrième être vivant qui disait « Viens ». Et verset 8, je regardais et voici paru un cheval d'une couleur verdâtre. C'est lui qui le montre son nom est la mort et le séjour des morts, sa compagnie. Le pouvoir, le feu donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Imaginez, le quatrième et dernier cavalier s'appelle la mort. Il est le seul cavalier qui porte un nom. Et le pôtre Jean écrit que les séjours des morts aussi le suivent. Le séjour de mort, c'est la tombe. Le suivi est qu'ensemble, il tue 25% de la population mondiale. Le mot grec ici pour mort est Thanatos. Thanatos, T-H-A-N-A-T-O-S. Thanatos, qui, selon le lexique grec de Théor, est étroitement lié au mot grec Thanato, qui est lié avec le mot pestilence ou peste. Donc, il y a une sorte de peste ou pestilence dans ce cher cavalier. Selon le dernier numéro de Time Magazine, le taux de mortalité de COVID-19 est de 4%. Mais de nombreux experts pensent que le taux de mortalité réel est plus faible parce que nous ne savons pas vraiment combien de personnes sont atteinte du virus. Mais imaginez comment le coronavirus a paralysé notre économie et a forcé en quelques semaines un changement fondamental de notre mode de vie, et seulement avec un taux de mortalité de 2,5%. Imaginez ce qu'un taux de mortalité de 25% signifierait pour le monde. Nous devrions savoir qu'il existe un précédent à cet égard. Ce même article du magazine Time rapportait qu'en 2012, l'épidémie de MERS avait un taux de mortalité de 34%. Imaginez, 34%. Il y a 8 ans. Et donc, je pense que nous voyons autour de nous aujourd'hui littéralement un minuscule avant-goût de ce qu'une peste peut faire à notre monde et à nos vies. Depuis plus de 80 ans, nous parlons de cheval verdâtre dans l'Église de Dieu. Et nous sentons maintenant par nous-mêmes à quel point cet événement futur sera dévastateur. L'inquiétude de ne pas trouver les choses au supermarché, à l'éclair par exemple, cela signifie que nous risquerons de perdre notre emploi. Cela signifie qu'on risque de tomber malade ou d'aller dans un hôpital qui n'est pas assez de personnel et d'équipement pour nous soigner. Cela signifie que certains d'entre nous qui sont plus âgés ou en mauvaise santé peuvent potentiellement mourir. Cela pourrait signifier qu'un membre de la famille soit amené à l'hôpital dans un état critique, que personne ne soit pas autorisé à l'accompagner en raison de quarantaine COVID-19. Ça, c'est stressant. C'est une grande détresse que nous ressentons, et nous parlons d'un taux de mortalité de 2,5% et non 25%. Mais imaginez maintenant, dans ce moment, que pendant cette crise, nous ayons une attaque terroriste, des attaques simultanées et coordonnées comme en 2015 contre Charlie Hebdo, le Bataclan et le Stade de France, ou s'il y avait une série d'explosions de bombes sales nucléaires à travers la France ou l'Europe. Cela nous donnerait une idée de l'impact cumulatif que représente le cheval rouge en versets 3 et 4. Regardez versets 3 et 4. Quand il ouvre le deuxième sceau, je tendis le deuxième être vivant qui dise « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui, monté, reçut le pouvoir d'enlever le pays de la terre, afin que les hommes s'engorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Et puis, alors que nous sommes victimes d'une attaque terroriste, le trafic commercial mondial est interrompu, de telle sorte que nos supermarchés ne sont pas réapprovisionnés. C'est le cheval noir au verset 5 à 6. Regardez au verset 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, je tendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui montait tenait une balance dans sa main, verset 6, et je tendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Et imaginez que tout ce temps, il y a un grand leader, probablement un chef religieux, qui capte l'imagination du monde et commerce à exercer de ce pouvoir pour tourner les fils contre leur père, et les pères contre leurs fils, et les frères contre les frères, et déchirer les communautés de telle sorte qu'elles ne puissent pas résister aux tempêtes de l'iniquitude. Et voilà, ça c'est le cheval blanc du verset 2. Il dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Et dans tous ces chaos vient la persécution, le martyr pour les saints au verset 9. Regardez verset 9. Quand il ouvre le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'au quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Et verset 11, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de ne se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis en mort comme eux. Ce temps futur sera un temps de grande détresse et Dieu va trier le blé et livrer. Je pense que nous mettons trop l'accent sur les petits différends avec notre famille et nos amis, et sur nos petites disputes. Je pense qu'il est temps de laisser Dieu régler cela et de nous pencher sur le fait de savoir si nous sommes suffisamment proches de Dieu pour pouvoir accepter sa volonté dans la prochaine période de grande détresse. Sommes-nous prêts pour cela? Sommes-nous prêts? Passons à notre deuxième point, ce que Job a dû ressentir à travers 39 chapitres de détresse. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Job 1. Job 1 et verset 1. Et nous lisons l'introduction de Job ici. À Job 1, et verset 1, il dit, « Il y avait dans le pays, doute, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Le livre de Job compte 42 chapitres. 42 chapitres, soit plus de 10 000 mots. Et se ouvre sur une déclaration qui établit un standard élevé pour le type d'homme qui était Job. Je me demande combien d'entre nous pourraient dire que nous sommes à ce niveau. Puis, dans les chapitres 1 et 2, nous voyons d'incroyables épreuves personnelles s'abattre sur Job, selon le dessein de Dieu. Perdre ses enfants, perdre sa richesse, finalement souffrir des graves problèmes de santé personnelle. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont lu le livre de Job dans son intégralité, complètement, les 42 chapitres. Mais je connais ma tendance et je pense que je ne suis pas le seul, car pour la plupart d'entre nous, lorsque nous lisons le livre de Job, nous commençons au chapitre 1 et 2 et nous continuerons la lecture au chapitre 3 et nous arrivons à peu après au chapitre 10 ou 11. Et on s'arrête pour tout lire, pour passer à la fin du livre. On s'arrête de lire parce qu'on se perd un peu dans le va-et-vient avec ses amis et ses longs monologues et ses déclarations apparemment contradictoires et le ton de complainte. Nous connaissons la fin et nous voulons juste arriver à la fin dans Job 42 et verset 5. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît. À la fin, donc nous avons lu le premier chapitre, le premier verset, mais allez dans le dernier chapitre, 42 et verset 5. Job dit, 42, chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Nous voulons sauter les chapitres 3 à 41 et passer de l'épreuve de sa résolution. Mais prenons le temps de ressentir ensemble la douleur et l'incertitude pour savoir que nous pouvons vraiment comprendre, ressentir la douleur et l'incertitude. Et tout comme nous savons que Job 42 et verset 5 est bien là, à la fin du livre, notre douleur sera avec nous pendant un certain temps. Et notre incertitude sera résolue. Mais pendant que nous sommes dans le brouillard, dans l'obscurité, la difficulté, cela peut nous sembler interminable et impossible. Lisons maintenant ensemble des extraits de la détresse de Job. Donc, revenons, s'il vous plaît, à Job 2 et verset 10. Job 2, chapitre 2 et verset 10. Et on peut, maintenant, on va juste lire quelques passages pour comprendre le brouillard, l'incertitude, la douleur, les difficultés qui arrivent dans une détresse. Job 2, verset 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme encensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » Et tout cela, Job ne pêche point par ses lèvres. Job a compris que l'adversité faisait partie du développement du caractère personnel et du plan de Dieu. Et verset Job, maintenant, verset 16, 3, verset 16, « Où je n'existerai pas, je serai comme un avortant caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. » Job aurait souhaité ne jamais être né. Il est rempli de chagrin et de douleur. C'est ce qu'il a ressenti et c'est ce que nous ressentons parfois. Remarquez verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Sommes-nous prêts à affronter nos pires craintes pour comprendre que Dieu est plus grand que la pire chose que nous pouvons craindre? Allez au chapitre 5 maintenant, et verset 17. Chapitre 5, Job 5, verset 17. « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction de Tout-Puissant. » Verset 18. « Il fait le plaie et il le bande, il blesse et sa main guérit. » Croyons-nous que toute épreuve qui pourrait nous arriver dans le mois à venir pourrait faire partie d'un processus que Dieu utilisait pour nous rapprocher de l'endroit où, nous devons être dans notre relation avec lui. Chapitre 7 maintenant, Job 7 et verset 1 à 4. La sorte de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'homme, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassisé d'agitation jusqu'au point de jour. Jusqu'au point de jour. Combien d'entre nous en passe ou passeront des nuits blanches? Combien ont entendu l'expression « la vie est dure et puis en morte » Job l'a ressenti, il a vécu, et pourtant il dit dans Job 13 et verset 15, reportez-vous à Job 13 et verset 15, voici quand même, Job 13 et verset 15, il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui, mais devant lui je défendrai ma conduite. Imaginez d'avoir cette attitude. Et alors, dans chapitre 16, et maintenant versets 7 à 8, il dit, « Maintenant, alas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. » Verset 8, « Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma malheureux se lève et m'accuse en face. » Nous pourrions continuer à lire plusieurs passages et nous verrions un homme se débattre avec la vérité qu'il connaît concernant l'amour de Dieu et sa croyance en la grandeur de la puissance de Dieu, mais aussi de la réalité de ce qu'il voit devant lui avec sa santé personnelle. Avec le fait que ses enfants sont tués même. Et à travers ces 39 chapitres, il a appris la leçon que Dieu voulait qu'il apprenne. Cette leçon que Job n'avait pas encore vraiment compris, qui était Dieu. Je pense que c'est la grande marche personnelle de la foi. Nous avons peut-être lu les paroles de la Bible, nous avons peut-être entendu les sermons, mais quand la grande détresse viendra, nous aurons vu Dieu de la manière dont Job a vu Dieu. Où devrons-nous apprendre cette leçon? Passons à notre dernier point. Examinons la grande résolution de l'épreuve de Job et ses implications pour nous. Retournez maintenant à Job 42 et verset 5. Job 42 et verset 5 à 6. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Sur la poussière et sur la cendre. Je pense que la grande erreur de notre époque, même dans l'Église de Dieu, est quand on a parfois pensé que nous étions mieux que les autres. Nous pensons que nous savons mieux que les autres, que nous sommes plus proches de Dieu, que les personnes qui nous font du mal ou qui nous causent des problèmes. Nous sommes mieux que eux. Nous voyons des erreurs chez les autres. Nous voyons des erreurs que les gens font. Nous voyons leurs mauvaises attitudes. Nous voyons leurs erreurs et nous conclurons que cela signifie que nous sommes bons et qu'ils sont mauvais. Nous avons raison et ils ont tort. Il est peu probable que nous soyons tout aussi mauvais, mais dans d'autres domaines, et nous ne pouvons pas les voir parce que nous mettons l'accent sur les fautes des autres. Nous aurons peut-être raison pour les erreurs que nous voyons chez les autres, mais nos erreurs peuvent être beaucoup plus graves. Reportez-vous à Matthieu 7, verset 5, pardon, Matthieu 7 et verset 1 à 5. Matthieu 7, Matthieu 7 et verset 1 à 5. Et dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus pas le putre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une putre dans le tien? Hypocrite! Ôtez premièrement le putre de ton œil, et alors tu verras comment ôter le paille de l'œil de ton frère. Je pense qu'une fois que nous aurons compris ce que signifie de condamner, comme dit Job, mais de manière constructive, et de se repentir dans la poussière et le cendre, nous serons prêts pour la grande détresse. Se condamner, mais de manière constructive, et non pas une haine de soi incontrôlée et aléatoire, car serait écoutée la longueur d'onde de notre adversaire. Mais d'une manière constructive, en termes d'examiner, de conscience, et d'ôter notre péché de nos vies, telles que ces prochains jours de pain sans levain nous l'indiquent. Nous serons prêts parce que nous avons déjà été testés. Nous avons tous été testés et donc soit la grande détresse ne sera plus nécessaire pour nous et nous serons transportés vers un lien sûr. Soit la grande détresse ne soit affectera pas de la même manière. Je ne dis pas que je suis parvenu, je dis simplement que c'est la norme que je vois dans la Bible et que Dieu veut nous donner la chance de comprendre cela individuellement. Mais dans sa grande détresse et dans la difficulté, il y a quelque chose que Dieu dit dans Romains 8 et verset 31 et là à la fin de ce chapitre 8. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Romains 8 et verset 31. Romains 8 et verset 31. Il dit ici, dans Romains 8 et verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu et pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi Dieu sera-t-il pour nous? Pourquoi il dit ça? Si nous piétinons sa grâce sur nos pieds en pensant que d'une certaine manière, nous sommes meilleurs que les autres, c'est à nous qu'il a fait référence dans le verset suivant, verset 32. Il dit ici, lui qui a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pour hausser toutes choses avec lui? Donc, on peut voir vraiment que Dieu a donné son fils, et ça c'est le point, ça c'est de choses que nous avons célébrées, nous avons déjà célébré pour la cérémonie de la Pâque. qui déclenche toutes les choses qu'on fait maintenant pendant les jours de pain sans levain. Mais maintenant, regardez le verset 35. Romains 8, verset 35. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On dirait que nous sommes destinés à connaître toutes ces difficultés pour comprendre que nous ne serons jamais seuls, que Dieu sera avec nous et ce que cela signifie vraiment. Notre identité chrétienne même est forgée par ces expériences. Pourtant, Dieu ne nous laisse pas là uniquement pour souffrir. L'apôtre Paul conclut sa pensée par les versets 37 et 39. Par les pensées de 37 et 39. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que les vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons un Dieu aimant qui sait de quoi nous sommes faits et souvent nous ne savons pas ce que nous pouvons supporter jusqu'à ce que Dieu nous amène à ce point. Serons-nous prêts pour le quatrième cavalier de l'Apocalypse? Leur réponse, je crois, consiste à accepter la détresse de ce temps en regardant la réalité de 2020 dans les yeux et en sachant que Dieu est plus grand que tout ce qui nous arrivera. Mais cela ne veut pas dire que nous ne serons pas comme Job et que nous ne vivrons pas dans les moments difficiles. Mes frères et sœurs en Christ, faites face à ce virus en conduisant sage vos affaires dans l'humilité, en sortant et surtout par la puissance et l'Esprit de Dieu. Utilisant sagement ce temps pendant les jours de pain sans levain, en rachetant le temps pour sortir de nos anciennes façons de penser. C'est dans ces moments comme celui-ci que se forge notre identité chrétienne et notre caractère. Merci bien.